Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons revenir encore sur notre sujet, la parole qui doit habiter abondamment parmi nous, la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous insister? Avons-nous raison d'insister? Mais nous avons effectivement raison d'insister. Parce que elle est au commencement, la parole. Elle est celle qui soutient toutes choses, la parole. Si autrefois Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, en ces derniers jours, il nous parle par le Fils, Christ, qui est la parole vivante. Et la Bible dit dans ses Hébreux, chapitre 1er, en disant qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc tu ne peux pas être soutenu si tu ne t'approches pas de la parole. Dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul, s'adressant à son fils dans la foi, Timothée, ministre de Dieu, il va lui dire ceci, que d'abord au chapitre 3, verset 16, il dit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Voilà le but des Écritures. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, il vient au chapitre 4 en disant: Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quelqu'un dit amen. Et le temps dont parlait Paul, s'il a existé déjà il y a quelques siècles en arrière, nous sommes vraiment de plein pied dans ces temps-là où les gens ne supportent plus qu'on fasse allusion à la parole de Dieu. Les gens aimeraient qu'on parle d'autre chose, mais pas de la parole. Vous arrivez dans certains deuils, lorsqu'on dit, bon, un prédicateur va prêcher, un groupe de gens par hier, là, crie, Toboy va conseiller. Donc, comme pour dire, ne nous racontez pas ces histoires. Laissez les Suédois nous agrémenter ici. Laissez ceci et cela, mais pas ces histoires-là. Est-ce qu'il y a besoin d'église? Donc, pour eux, il faut laisser vos histoires dans l'église. Et comme nous ne venons pas dans vos églises-là, nous ne les entendrons jamais. Mais Dieu est celui qui crée des opportunités. Même dans un deuil, il fait que la parole soit annoncée pour que celui qui a toujours échappé puisse l'entendre. Parce que, bien aimé, pour Dieu, que tout le monde l'entende et que chacun puisse décider par lui-même, parce que chacun a sa volonté. Dieu n'obligera jamais quelqu'un à se décider pour lui, mais Dieu suggère toujours à chacun de se décider pour lui. Alléluia. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui permet à quelqu'un de pouvoir... Il faut exposer chacun donc à la parole de Dieu pour que chacun prenne l'opportunité de se décider pour ou contre. Nous devons aimer la parole de Dieu. Car, et Paul dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, il va apparaître. Jésus va revenir très bientôt, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons continuer à prêcher la parole. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous devons être des lecteurs de la parole de Dieu. Nous devons être des biblistes. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et ceci est d'une importance capitale. Il dit à Timothée, prêche la parole. Ne raconte pas d'autre chose, mais prêche la parole. Alléluia. Et quand tu prêches la parole, Timothée, insiste en toute occasion. N'attends pas seulement de prêcher dans une occasion favorable, mais même lorsque l'occasion ne sera pas favorable, insiste, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi Timothée? Car il va venir un temps, il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils vont avoir de la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs. Et on peut dire à Kinshasa, il se donnera une foule de prophètes. C'est comme si c'est le ministère, le seul ministère maintenant. Le ministère des prophètes. Prophètes à gauche, prophètes à droite. Même en vos lieux ou des prises de taxis, il y a des gens qui viennent. On leur dit, je suis prophète, Dieu m'a envoyé. Commence à te prophétiser. Te prophétise quoi? Pas le ciel. Il te prophétise, tu vas avoir un mari. Et même quand tu as un mari déjà, lui est en train de te prophétiser que tu vas avoir un mari. Menteur comme prophète. Pourquoi est-ce qu'il ne prophétise pas sur le ciel? Pourquoi est-ce qu'il ne prophétise pas sur la mauvaise vie que tu es en train de mener pour que tu puisses l'abandonner et que tu suives Jésus-Christ? Et les gens aiment, ont la démangeaison d'entendre les choses agréables à leur oreille. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont tombés dans ces pièges-là et ils se nomment des multitudes de prophètes. Quand ils entendent qu'il y a un prophète à gauche, ils accourent. Ils sont toujours des missionnaires de leur église. Ils sont à leur église pour un dimanche sur quatre. Les autres dimanches, ils cherchent. Ils ont suivi à la télévision. Il y a un prophète. On a dit qu'il fait ceci. J'ai béni Dieu pour une de nos sœurs qui habite, disons, qui partage la parcelle avec quelqu'un qui se nomme serviteur de Dieu. Et une de ses connaissances est allée. Et il lui a fait part de combien ils ont prié ensemble. Et tout le temps, il se disait, je peux voir. Il a hésité plusieurs mois. Après, finalement, il décide d'aller voir ce serviteur. Il dit, non, je suis venu aussi parce que tel a dit que, m'avait dit que vous avez prié ensemble, etc., etc. Et au finish, il prie avec, mais il dit, prépare un sacombi du sel. Tu reviendras me voir avec un sacombi du sel. Tu vas faire constituer une enveloppe que tu vas m'amener et tu vas faire ceci et nous allons venir. Il dit, mais est-ce que pour prier, il faut que seulement j'ai un sacombi du sel? Ça l'a troublé, il est venu me voir. J'ai dit, il ne faut plus jamais le revoir. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que le sel a à voir dans la prière? C'est le sel qui va te maudire. Il ne te dit pas ça. Il va t'entraîner sur une voie où tu vas être maudit parce que Dieu n'est pas dedans. Oh, alléluia. La parole de Dieu est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus n'a jamais été compliqué. Lisez les messages de Jésus-Christ. Ce n'était pas des messages intello. Ce n'était pas des messages universitaires. Même le plus petit comprenait ce que Jésus était en train de dire. Et aujourd'hui, on cherche à vous compliquer les bidons pour rien. Le message de ton Seigneur est simple. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous ne voulons pas compliquer le ciel pour les gens. Nous voulons que la porte soit ouverte pour les gens. Il y a des gens qui se privent eux-mêmes d'entrer par la porte étroite, de se priver d'entrer au ciel et ferment la porte à d'autres aussi. La parole de Dieu. Quelqu'un dit après moi la parole de Dieu. Dites-le encore après moi la parole de Dieu. La Bible, la parole écrite de Dieu doit demeurer en chacun de croyants. C'est-à-dire que par l'étude, la méditation et l'application de la parole, celle-ci devient partie intégrante de la vie du croyant. C'est important que la parole de Dieu puisse devenir une partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. Nous prenons encore 1 Pierre, nous avons lu autrefois, j'espère, je crois, et donc 1 Pierre 2, verset 1 jusqu'au verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit là? Il est écrit que « rejetant donc toute malice » et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, le lait donc, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions nous
attachés à la parole. Mais avant, Pierre dit, commencez par rejeter des malices et toute ruse. Rejetez la dissimulation, rejetez l'envie et toute médisance. Il y a encore des esclaves de la médisance parmi nous. Il y a encore des esclaves de l'envie, enviant à gauche, à droite. Il dit, rejetez toutes ces choses. Et qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Croître pourquoi? Croître pour le salut. Alléluia. Afin que vous croissiez pour le salut. J'ai pris un commentaire dans la Bible, la Vie Nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On dit que tous les enfants ont la même caractéristique. Ils veulent grandir pour être comme leur grand frère, leur grande sœur ou comme leurs parents. Quand nous naissons, poursuit ces commentaires, quand nous naissons de nouveau, nous sommes spirituellement des bébés. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, nous voudrons grandir. Il est triste de constater que certains ne grandissent jamais. Le nouveau-né sait instinctivement qu'il a besoin de lait et il signale son désir de nourriture, ce qui garantit sa croissance. Dès que l'enfant est né, on ne lui apprend pas à téter. Est-ce qu'on apprend à un bébé de téter, maman? Non, c'est automatique. L'enfant a le désir de téter, de prendre le lait. Et pourtant, d'où il vient, il ne tétait pas. Il était nourri autrement. Mais dès qu'il vient, il a le désir du lait. Il veut prendre le lait maternel. Donc, preuve qu'il est né. Il est né. Et preuve qu'il est né, il a le désir du lait. Si tu es né spirituellement, tu dois avoir le désir de la parole de Dieu. S'il n'y a pas le désir de la parole de Dieu, examine bien ta conversion. Celui qui est né spirituellement aura le désir de la parole de Dieu. Va avoir la soif de la parole de Dieu. Va avoir faim de la parole de Dieu. Plusieurs, malheureusement, n'ont pas cette faim-là. Ils n'ont pas cette soif. Une fois que, je poursuis les commentaires, une fois que nous prenons conscience de notre besoin de la parole de Dieu et commençons à trouver notre nourriture en Christ, notre appétit spirituel augmente et nous acquérons de la maturité. Je m'arrête encore pour faire un commentaire pour dire qu'il n'est-il pas dit que l'appétit vient en mangeant? Il y a des gens, vous les invitez à table, non, je n'ai pas faim. Alors vous insistez, non, viens le fils qui m'accompagne, prends le fils que l'assiette, prends un petit rien. Et puis vous constatez qu'il vous a donc accompagné jusqu'à la fin, vous commencez à vous disputer le dernier morceau. L'appétit est venu, hein? Ouvre la Bible de ton Dieu, alléluia, même si tu n'en as pas envie, est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre seulement la Bible, l'appétit de la lecture viendra en lisant, et tu vas commencer à prendre plaisir, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenez le courage de prendre votre Bible et de l'ouvrir. Alléluia. Et généralement, qu'est-ce qui arrive pour les non-habitués de la lecture de la parole de Dieu? Dès qu'ils prennent la Bible, au bout d'une minute, ils commencent à somnoler. Quand tu constates que tu commences à somnoler, change de stratégie. Tu étais assis sur ton lit, tu te lèves. Tu commences à lire la Bible en faisant des petits pas dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sommeil ne te prendra plus. Et ce qui te prendra, c'est la parole de Dieu que tu auras lue. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Des gens qui aiment la facilité, dès qu'ils commencent à somnoler, ils les jettent même la Bible de côté. Ah, il s'en va. Il ne faut pas t'en aller. Ne laisse pas le sommeil t'emporter. Laisse que la parole de Dieu puisse t'emporter. Alléluia. Alléluia. Et dit, notre appétit spirituel augmente et nous acquérons de la maturité. Et pour ces commentateurs continuent en disant, quelle faim et quelle soif avons-nous de la Bible? Un signe sûr de notre croissance spirituelle est le profond désir de s'alimenter de la parole de Dieu vivante et permanente. Ainsi, nous devons faire attention à ne pas nous laisser aller à une baisse d'appétit et de soif de la parole de Dieu, sachant que ce désir ardent peut être refoulé par de mauvaises habitudes
les plaisirs de la vie, pour ne citer que cela, les mauvaises habitudes. Vous savez, un enfant qui a grignoté à l'école, ses amis passent avec les cakes, on lui donne un morceau, il mange. Un autre ami passe encore avec le croissant, on lui donne un morceau, il mange. Un autre enfant passe avec un sandwich, oui. On coupe un morceau et puis il mange. Cet enfant qui revient à midi, est-ce qu'il aura faim? Il a déjà grignoté. C'est pourquoi ceux qui nous les conseillers dans cette matière-là disent éviter de grignoter entre les repas. Il y a déjà, même s'il a pris son petit déjeuner le matin, quand il arrive au bureau, il a toujours quelque chose à manger. Tout le temps. C'est pourquoi vous êtes en train d'augmenter toujours des cholestérol. Parce que vous n'êtes pas discipliné, vous mangez à tout bout de champ. Et quelquefois, ce que nous avons consommé entre les repas nous empêche de manger les vrais repas. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous consommons beaucoup de tout ce que le monde nous donne, ça nous enlève le goût de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça nous enlève le goût de la parole de Dieu. Apprenons quelquefois à nous discipliner. Oui, c'est ma télé. Dieu m'a donné la possibilité de la voir. Oui, je t'ai regardé pendant autant de temps. Maintenant, je te laisse. Je te bloque. Je dois aller maintenant jeter mes regards dans la loi parfaite, qui est la parole de Dieu. Donc, toi, tu dois quitter la télévision, même quand, seulement quand on a même les émissions se sont terminées. Maintenant, c'est comme du riz là, sur la télé. Toi-même, tu as endormi. Tu sursautes. Il est 1h du matin. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur, Batelanga. Amen. Tu dors. Non, ne sois pas ce genre de chrétien. Oh, vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Chaque jour, tu dois avoir un contact avec la parole de Dieu. Amen. Job 23, verset 12 dit que, c'est Job qui parle, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ce livre. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il parle ça donc de Dieu. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements des livres de mon Dieu. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il dit, j'ai fait plier volontairement. Quand j'ai lu sa parole, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Quand j'écoute la parole de Dieu, que ce soit par ma lecture personnelle, ma méditation personnelle, ou par une prédication, par un enseignement, une prédication comme c'est le cas ce matin, je dois être capable de plier ma volonté aux paroles que j'entends. Je dois soumettre ma vie à la parole de Dieu. Cet homme de Job avait un grand respect de la parole de Dieu. Un grand respect de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de conformer notre vie à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but ultime de toute croissance spirituelle ici-bas. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu. Je disais, elle nous permet de conformer notre vie à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être conformes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être ses imitateurs. Puis Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Autrement dit, il veut dire quoi? Vous ne m'imitez pas moi, vous imitez le Christ que moi j'imite. Et pour imiter le Christ, il faut avoir sa parole. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous ne l'appliquons pas à notre vie, nous ne sommes pas les imitateurs de Christ. Amen. Oh, amen. J'aimerais que vous lisiez avec moi dans Jacques. Jacques au chapitre 1er, le verset 22 jusqu'au verset 25. Jacques chapitre 1er, nous commençons la lecture au verset 22. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oh, amen. Il sera comment? Heureux dans son activité. Celui-là, il sera heureux dans son activité. Qui sera heureux dans son activité? Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui est donc la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire que mettant la parole de Dieu en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux être heureux dans ton activité? Tu veux être heureux dans tes affaires? Tu veux être heureux dans ton commerce? Tu veux être heureux dans ton travail? Voilà l'ingrédient. Voilà les fétiches, si je puis parler ainsi, pour devenir heureux dans son activité. C'est quoi? L'attachement à la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Dans ce verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Recevoir la parole est insuffisant. Si nous nous limitons cela au niveau seulement de la recevoir, nous devons également lui obéir, donc obéir à la parole. Posséder la Bible ou même la lire comme un livre de littérature n'a rien de vertueux. Rien de vertueux. Un profond désir d'écouter Dieu et une volonté inébranlable de faire ce qu'il dit sont nécessaires. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut mettre la parole en pratique. Elle doit s'incarner dans nos vies. Il ne faut pas que nous lisions les Écritures sans leur permettre de changer nos vies en mieux. Ça sert à quoi de lire les Écritures et ne pas les laisser nous changer? Ça sert à quoi? Nous prenons la parole de Dieu, nous la consommons afin qu'elle puisse couler, permettez-moi l'expression, couler dans nos veines spirituelles. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu ne reste pas seulement au niveau de notre cerveau. Un jour, quand nous étions encore du côté de Luima, le pasteur Bondo prêchant, donc un jour, donc, pendant que nous le faisons venir de temps en temps, et donc là, il croyait peut-être qu'il était venu seul, et peu importe, ça c'est un détail, et il disait ceci, voilà ce qu'il disait. Il disait que entre le cerveau et le cœur, il n'y a que 30 cm qui séparent les deux. 30 cm. Mais la parole de Dieu peut rester là 30 ans sans qu'elle ne descende dans le cœur. C'est grave, hein? Elle est seulement au niveau là. Et quand et surtout elle reste là, les gens deviennent discutailleurs. Ils discutent avec la parole de Dieu. Ils disent même, dites-moi, c'est écrit où? Ces jours-ci, on me parle beaucoup de ça. Les gens disent, dites-nous, est-ce que c'est écrit où? Qu'il ne faut pas prendre de l'alcool. Où est-ce que c'est écrit? Tout en sachant que c'est écrit, j'aimerais dire à quelqu'un que quand quelqu'un atteint une certaine dimension de la marche avec le Seigneur, il ne permet pas que l'alcool entre en lui. Amen. D'autres disent, ton petit mota. Vous comprenez ce langage? Ton petit mota. C'est le Moulouba qui dit ton petit mota. Donc, un peu de Timothée. Donc, comme ce qu'on avait conseillé à Timothée. Quand vous lisez la Bible, il a été conseillé à Timothée de prendre un peu de vin. Ça s'est arrêté là. Pour quelle raison? À cause de son estomac. Il avait des problèmes d'estomac. Toi aussi, tu as des problèmes d'estomac. Et c'est le médecin qui t'a recommandé comme produit pharmaceutique l'alcool, le vin que tu prends. C'est le médecin qui t'a recommandé ça. Et donc, tu invoques toujours, non, comme à Timothée. Donc, c'est quel médecin? Moi aussi, j'aimerais le voir, qui me consulte. C'est quel médecin qui t'a consulté? Qui t'a prescrit un peu de vin, comme à Timothée. Il y a des gens qui viennent ici, hein, qui se cachent chez eux. Même quand je parle là, ils savent qu'ils ont laissé des damjanes. Ils ont laissé des bouteilles d'alcool chez eux. Ils sont là, avec sourire jaune. Ils en consomment. Il y a très longtemps, un jour, j'entre dans la maison, chez un membre de l'église. Généralement, moi, j'atterris par surprise. Je toc, 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 toc. Ah oui, entrez! Il pensait que c'était quelqu'un d'autre. J'entre, je vous assure. On commençait à chercher, à cacher, mais c'était déjà trop tard, j'étais là.
Maintenant, bonjour, pasteur. Pasteur, approchez. Donc, ils étaient embarrassés. Mais vous êtes embarrassés pour quand vous étiez seul, Dieu n'était pas là. Dieu est plus que Kali. Oh, Dieu est plus que Kali. Quand vous commencez à vous cacher en voyant Kali, donc vous réalisez que c'est mauvais. Hein? Parce que votre conscience vous reproche. Si ce n'était pas mauvais, vous n'allez pas vous reprocher, oui ou non? C'est écrit. J'aimerais te dire que c'est écrit. C'est écrit. Je vais venir ces jours-ci qui vont venir avec des passages clairs. Vous allez voir que c'est écrit. Quand on parle, c'est pourquoi lisez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'ange apparaît à Manoac et communique à Manoac que oui, vous êtes resté longtemps sans enfant, ta femme va avoir un enfant, va concevoir. Mais l'ange de l'Éternel dit que cette femme, ta femme, elle est enceinte maintenant. Elle porte un Nazaréen, un consacré. Elle ne prendra pas d'alcool ni de liqueur forte jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher. Elle n'était pas consacrée, mais elle porte le consacré. Vous me suivez? Elle n'était pas consacrée. Par le seul fait de porter le consacré, on dit qu'elle n'a, puisqu'elle a le consacré, elle n'allait pas avaler l'alcool, les liqueurs fortes, jusqu'à ce qu'elle libère le consacré et peut vivre maintenant sa vie. Mais toi et moi, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Ouh! Nous ne sommes pas la femme de Manoac, nous sommes vraiment le type de Samson. Donc nous sommes les consacrés. Alléluia! Nous sommes les consacrés. Quand quelqu'un se met encore à discuter sur ces choses-là, il est encore bébé dans la foi. Quelqu'un qui a de la maturité dans la foi, il ne discute plus sur ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai à perdre ou à gagner en buvant sur ces choses-là? Donc, est-ce que j'ai un intérêt dedans? Que je ne puisse pas boire, est-ce que j'ai quelque chose à gagner dedans? Je suis au Seigneur depuis 86 août. Et depuis 86, l'alcool, je n'ai pas pris de liqueur forte, je n'ai pas pris d'alcool. Du reste, je ne buvais même pas moi la bière. Deux fois j'ai bu la bière, je me suis enivré. Enivré, on me transportait comme ça, j'étais un. Deux fois. Et je prenais avec quoi? Avec un mélange de sucré dedans. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais... C'est le goût là, ça ne passe pas. Et pour que je... On a mettait un peu de Fanta jaune là, dedans. Et comme il y avait des sucrés là, j'ai buvé. On est assis, on est en train de tomber dans ma solo. Et puis quand maintenant on dit, on va se lever, je me lève. Je n'ai plus d'équilibre. Je deviens sérieux. Vous voyez quand les gens, ils sont, quand quelqu'un est là, il est dans cet état-là, il devient très sérieux. C'est le patron de tout le monde. C'est le chef de tout le monde. Il a l'argent pour acheter à tout le monde une voiture. Il réalise même pas que c'est lui-même qui est devenu bololé, mais en train de dire, j'aimerais te dire que c'est écrit. Déjà, je te donne cet aspect-là de Samson-là. Ce n'est pas dans la Bible. Tu veux te justifier. Je t'invite à être un homme de Bible. Alléluia. Je t'invite à être un homme de la lecture de la parole de Dieu. Tu vas voir que quand tu es en train de grandir avec le Seigneur, certaines choses, tu ne vas même pas discuter dessus. Il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais à cause de mon attachement à Christ, à cause d'un certain niveau de consécration, je n'y touche pas. Oh, amen. Je n'y touche pas. Moi, je ne suis pas un chrétien. Non, moi, Dieu m'amène. Je dois monter avec le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. C'est important. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'amener à ce niveau-là. Nous devons aimer la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Qu'elle s'incarne dans nos vies. Il ne faut pas que nous puissions lire la parole de Dieu et ne pas permettre à cette parole de changer nos vies. Professer un grand amour pour la parole de Dieu et même passer pour un étudiant de la Bible revient à se tromper soi-même à se faire des illusions à moins que le développement de notre connaissance de cette parole nous fasse ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. Le but de la consommation de la parole, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Alléluia. Et vous devenez ce que vous consommez. Vous devenez ce que vous mangez. Continuez à augmenter notre connaissance intellectuelle de la Bible. sans pour autant lui obéir, peut constituer un piège plutôt qu'une bénédiction. La plupart des gens qui ont eu la connaissance célébrale de la parole de Dieu deviennent des discutailleurs. Vous passez des temps difficiles avec eux. J'ai dit à un bien-aimé ici, il dit, pasteur, j'ai parlé de ceci à un ami qui prend beaucoup d'alcool. Je lui ai posé la question souvent. Est-ce que ce bien-aimé-là est chrétien? Il dit non. J'ai dit, c'est peine perdue. Ce n'est pas encore le message à lui donner. Fais qu'il vienne au Seigneur. Quand il rencontrera Jésus, que l'Esprit du Seigneur sera en lui, tu pourras lui partager ça. Parce que l'Évangile, ce n'est pas ne faites pas, ne mangez pas. Non, ce n'est pas c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la faveur de Dieu. L'Évangile, c'est la grâce. Prêche-lui l'Évangile. Qu'il vienne au Seigneur après. Quand il va se mettre à écouter la parole de Dieu, il va abandonner ces choses. Oh, dites-moi, où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas, fumer? Hein? Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas fumer? Dans la Bible, là, est-ce qu'on parle, où est-ce qu'il est écrit qu'il ne faut pas fumer? Je peux aller plus loin avec vous. Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas prendre de la drogue? Dans la Bible, où est-ce que c'est écrit? Vous avez trouvé ça? Parcourez toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où on dit qu'il ne faut pas prendre de la drogue. Mais ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas fumer. Pourquoi toi tu veux savoir... Mais ce n'est pas aussi non plus écrit qu'il faut fumer. Est-ce que c'est écrit qu'il faut fumer? Pourquoi toi tu cherches seulement... Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas fumer? Mais est-ce que aussi c'est écrit qu'il faut fumer? Oh! À Cincinnati, à Ohio, aux États-Unis, une fois j'arrive, là où je suis généralement logé, on me pointe en disant que la famille là venait de perdre leur fille de 16 ans. Je dis, j'ai cherché à savoir pourquoi. C'était la première fois, papa et maman se sont convenus pour autoriser à leur fille de sortir pour la première fois avec son copain. Moi, autoriser ma fille à sortir avec son copain. Je dors, je suis ensorcelé. Donc je sais que c'est son petit copain, ils vont aller faire des bêtises ensemble. J'autorise. J'ai vu une fois, en train de suivre un documentaire en France... J'étais en Belgique, et donc, mais ça s'est passé en France. Je suis à la télé en train de suivre. Une maman, elle-même, sort avec sa fille pour aller acheter les sous-vêtements, les soutiens pour sa fille qui va aller faire la première expérience sexuelle avec son petit copain. Moukiliwan ici est baby, ce n'est pas un modèle là-bas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils ne sont pas un modèle de vie. Regardez comment ils sont en train de soutenir l'homosexualité et autres. Ils sont, on les respecte, ils font des grands discours. Même l'autre là qui est un peu, une partie de chez moi ici en Afrique, je les respecte. Il est en train de défendre l'indéfendable. Je l'ai vomi. J'ai suivi ça à une dame. On est en train de filmer comment sa fille va faire une première expérience sexuelle avec un copain. Ils ne sont pas mariés. Donc, mais maman sait que ce soir, ma fille va faire ça. Non. J'ai envie de vomir. Ils ne sont rien, ils ne sont pas supérieurs. Non. Un homme d'État de ce pays a dit à un autre en disant que même mon chien est plus intelligent que toi. Parce que mon chien ne fera pas ça. Pourquoi? Ils ont rejeté depuis très longtemps la parole de Dieu. Quand vous évoquez la parole de Dieu, ils se moquent de vous. La parole de Dieu, c'est quoi? Ils se considèrent des hommes intelligents. Et quand ils parlent, ils ont des grands discours, des grands mots. Et vous dites, ah, ils sont grands. Ils savent bien parler, ils ne savent pas bien parler. Bien parler, c'est évoquer la parole de Dieu. C'est ça, bien parler. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons à ces vieux livres. Amen, amen. Que chacun fasse son retour vers ces vieux livres. Et nous allons avoir la vie. Quelqu'un dit amen. Ah, quelqu'un dit encore amen. Amen. Continuez donc à augmenter notre connaissance intellectuelle de la Bible. Sans pour autant lui obéir, peut constituer un piège plutôt qu'une bénédiction. Quelqu'un a dit, l'impression sans l'expression mène à la dépression. Moi j'ajouterais aussi parce que ça venait déjà à la disparition. L'impression sans l'expression mène à la dépression, j'ai dit, mais aussi à la disparition. Aimons la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne venons pas ici comme pour nous calmer la conscience. Ne venons pas ici comme pour vous dire que c'est bien. Non, ça ne sera bien que dans la mesure où nous mettons la parole de Dieu en pratique. Est-ce que nous vivons la parole de Dieu? La combinaison idéale, a dit quelqu'un, est lire la parole et lui obéir. Alléluia. Voilà la combinaison idéale. Lire la parole de Dieu et obéir à la parole. À la parole de Dieu. Nous voulons tous prospérer, oui ou non? Nous voulons tous prospérer. Mais qu'est-ce qui nous a été dit dans 2 Timothée? Qu'est-ce qui nous a été dit là-bas? 2 Timothée, chapitre 3. Et le verset, non, plutôt le verset 4. Le chapitre 4 plutôt.
C'était 2 Timothée, où est-ce que je vais voir. Est-ce que c'était 2 Timothée ou bien c'était ailleurs?
C'était dans Jacques, je crois. Ça devait être Jacques. Je suis en train de chercher Jacques, chapitre 1er. Ouais, c'était dans Jacques. Et au verset 5, il est dit, verset 25 plutôt, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là fera quoi? Sera heureux dans son activité. » Amen. Ah, le temps me manque d'aborder psaume 1er. Nous allons y arriver. Moi, je ne suis pas pressé de passer à un autre sujet. Nous allons y arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons être heureux dans nos activités. Nous voulons avoir une famille bénie, n'est-ce pas? Oh, oh. Mais ça ne sera que dans la mesure où nous consommons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique. En ce moment-là, nous serons heureux dans nos activités. Il a été dit à Josué qui s'est posé mille et une questions. Comment succéder à un grand géant comme Moïse? Est-ce que je réussirai comme il a réussi? Et Dieu dit, attache-toi à la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Afin pour agir donc fidèlement. Selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Attaché à la parole de Dieu, agir selon ce qui est écrit. Est-ce que tes agissements sont selon les écrits? Tu veux réussir. Tu veux que le Dieu de Josué t'accompagne. Mais est-ce que tu mets sa parole en pratique? As-tu sa parole? Alléluia. Puisse Dieu bénir sa parole ce matin.